Gloire à Dieu pour ces moments passés dans sa présence, à entendre la beauté de ses chants et la qualité de nos musiciens. Je me croyais à Bâton Rouge, chez Jimmy Swaggart. Alors, j'ai eu à cœur de vous parler quelques instants sur un apôtre bien connu pour son doute. Vous avez compris. Et c'est étonnant dans la parole de Dieu comme la Bible ne nous cache pas les défauts des gens. Que ce soit Moïse, il avait des défauts, David, même Élie, Pierre, Paul, tous ont eu des défauts et la Bible ne les cache pas. Et quelque part, quand on réalise les exploits de ces hommes, que probablement nous n'allons jamais réaliser nous-mêmes, mais nous sommes contents que c'était des gens simples et avec des faiblesses. Et il est dit dans Jacques qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que nous sommes de la même nature que lui. Et pourtant, il est passé par une dépression grave et la Bible ne l'idéalise pas. C'est vrai que cela nous déculpabilise. Alors Thomas était un grand douteur et ça peut quelque part nous mettre à l'aise. Qui d'entre nous n'a jamais douté? Il y a Daniel qui lève là. Alors, évidemment, la Bible ne nous encourage pas à rester dans nos erreurs ou dans nos faiblesses. Au contraire, elle nous donne des atouts pour progresser, pour grandir, pour nous perfectionner dans notre vie chrétienne. Et ces hommes de Dieu ont connu des événements semblables aux nôtres, les mêmes déceptions, les mêmes obstacles, les mêmes tentations, les mêmes péchés, les mêmes combats et les mêmes souffrances. Donc, le récit du doute de Thomas ne nous est pas donné pour que nous aussi nous doutions, évidemment. Ce n'est pas ça le but de Dieu, mais pour nous aider à ne plus douter. Parce que toute la parole de Dieu insiste sur l'importance de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, Hébreux 11. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà l'importance de la foi. Le juste vit par la foi. Alors, dans ce récit du doute de Thomas, on peut trouver cette cause qui peuvent nous aider aussi à éviter le doute. Alors, je suis heureux de savoir que vous avez votre Bible avec vous. Nous lisons donc dans Jean au chapitre 20 le récit extraordinaire que Jean nous raconte au sujet du doute de Thomas. Et nous sommes donc dans Jean, Évangile de Jean au chapitre 20, le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si moi, je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Pourtant, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis, directement, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « mon Seigneur, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui sont à blémir, qui ne m'ont pas vu et qui ont cependant cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Voilà l'important. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en soi. Alors évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit concernant la cause du doute de Thomas, c'est qu'il était absent à la réunion. Son absentéisme, c'est quand même surprenant. Les 10 autres disciples étaient réunis, et on dit toujours que les absents ont tort. Pourquoi il s'est isolé des autres? S'il était avec eux, il aurait déjà cru. On dit toujours qu'un tison qu'on retire du brasier finit par s'éteindre. Et c'est vrai pour tous les domaines de la vie chrétienne. Privez-vous de la prière communautaire, vous serez démotivé pour prier. Privez-vous du partage biblique, vous allez vous désintéresser de la Bible. C'est pareil pour le témoignage, pour la louange, pour tout domaine dans la vie chrétienne. Quelqu'un a dit, le christianisme n'est pas un sport solitaire. Ça se vit en communauté. Et c'est vrai. Et quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens faisaient tout en commun, que ce soit l'enseignement, les prières, l'adoration, le témoignage, la Sainte Cène, pas de temps en temps, mais chaque jour, assidu. Ce mot-là est quand même important. Et c'est souvent quand on est absent que quelque chose va se passer. Ah, j'ai remarqué ça. Même dans nos réunions, on est absent. Ah, c'est dommage, j'ai raté quelque chose. Parce que Dieu a parlé, Dieu est intervenu, Dieu a montré sa puissance. Et on est souvent absent lorsque Dieu veut nous visiter, lorsqu'il veut nous parler. Même dans toutes nos occupations. Nos occupations, souvent, nous influencent négativement. Notre entourage sont des... Si notre entourage manque de chrétiens profonds et remplis de zèle, on va finir par s'éteindre nous-mêmes. On est en dehors du brasier. Même dans notre solitude avec Dieu, bien souvent, il voudrait nous parler, mais nous sommes absents. Lors de nos insomnies, le temps que nous pouvons passer seuls avec le Seigneur, on passe son temps à faire autre chose, à regarder la télé, on est sur nos GSM, et Dieu voudrait dialoguer, Dieu voudrait parler, mais nous sommes ailleurs, nos idées sont ailleurs. Et quand Dieu ne parle pas, le doute s'installe dans nos cœurs. Et c'est pourquoi Hébreux 10 nous exhorte dans ce sens, lorsqu'il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, retenons fermement la profession de notre espérance par celui qui a fait la promesse et qui est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Une deuxième cause du doute de Thomas, on peut dire que c'est son incrédulité que le Seigneur lui reproche. Parce que cache cette impossibilité aux 10 disciples de convaincre Thomas? Ils sont 10 à avoir vu le Seigneur, ils sont 10 à avoir vu ses mains trouées et son côté, ils sont 10 à l'avoir vu. Et puis, ils essayent de convaincre Thomas qu'il n'était pas parmi eux. Et Thomas n'est pas convaincu. Je dois le voir moi-même. Si je ne le vois pas moi-même. Et pourtant, j'imagine que Pierre, avec son impétuosité, il a dû insister, il a dû mettre toute sa force de conviction pour convaincre Thomas. Et Jean, l'apôtre de l'amour, il a dû mettre toute son affection pour faire comprendre à Thomas que le Seigneur était là. Non, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas refuse de croire en quoi? Il refuse de croire en la résurrection. Pourtant, Christ l'avait annoncé, sa résurrection. Et Thomas lui-même avait assisté à des résurrections. Il était là lors de la résurrection de Lazare. Et ici, c'est comme s'il décide de ne pas croire. Il s'obstine, il refuse de croire, malgré 10 témoignages concordants. Il refuse l'évidence. Alors ça, c'est pire que le doute, c'est l'incrédulité. Parce qu'avec le doute, on ne sait pas, on cherche à savoir, on voudrait bien savoir, on doute. Mais avec l'incrédulité, on refuse de croire, on refuse de savoir. C'est tout différent. Et pourquoi il y a tant de gens qui refusent de croire? Ils ont entendu l'évangile des dizaines de fois, mais ils ne se convertissent pas. Ils viennent peut-être même à l'église, mais ils remettent toujours leur décision à plus tard. On a le temps avant de prendre une décision. Et ils ont pourtant entendu combien de témoignages concordants, qui vont tous dans le même sens, des vies transformées, et ils refusent de croire. Ils connaissent déjà la parole de Dieu, ils connaissent déjà les prophéties de l'Ancien Testament, qui annonce Christ des siècles avant et refuse de croire l'évidence. Et Christ s'est exprimé sur cette attitude d'incrédulité. Et dans Luc 9, il y a le récit d'un père qui s'est approché des disciples pour qu'il le délivre d'un fils qui était possédé. Alors, Il dit au Seigneur, j'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Et là, c'est une grande leçon pour nous, parce que c'est au verset 40 de Luc 9. Une grande leçon pour nous, parce que combien de fois nous constatons encore de nos jours la même attitude, plutôt que de s'adresser directement au Seigneur. On va s'adresser à qui ? Pour avoir un bienfait. On s'adresse aux saints, on s'adresse à la Sainte Vierge, à la Sainte Rita, ou je ne sais pas moi. On préfère aller à Lourdes ou à Banneux plutôt que de se donner à Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus ici s'exclame avec indignation. Il dit, incrédule, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. Et Matthieu 17, le passage correspondant, il raconte comment les disciples alors ont interrogé Jésus sur son attitude ferme. Pourquoi nous, on n'a pas pu chasser le démon ? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, voilà qui transformerait tout. Et puis il leur parle aussi de la prière et du jeûne pour des cas aussi difficiles. Et Jésus nous parle encore sur ce ton aujourd'hui, parce que tout est possible à celui qui croit, mais à quelqu'un qui a décidé de ne pas croire, qui a décidé de douter, il n'obtiendra rien, ni chez le Seigneur, ni chez les disciples. Il faut décider de croire. Il faut arrêter cette incrédulité. C'est ce que Jésus va dire à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. On peut dire, troisièmement, que Thomas souffre d'ignorance. C'est ce qui le fait douter. Au sujet de la résurrection, pour Thomas, la résurrection n'était pas envisageable. Dans le récit de la résurrection de Lazare, ça se trouve dans Jean 11, quand on annonce à Jésus la mort de Lazare, Jésus propose à ses disciples d'y aller. Et alors Thomas fait une remarque vraiment étonnante, à la limite désobligeante. Il est écrit au verset 17, « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Quoi ? Afin de mourir avec lui ? Afin de mourir avec Lazare ? Ça, c'est quand même étonnant comme réflexion. Comme si pour Thomas, tout est envisageable, mais mourir avec Lazare, tout est envisageable, sauf la possibilité de la résurrection. Pourtant, Thomas a assisté à des résurrections. Il y a eu la fille de Jaïrus, dont on parle dans Matthieu 9, Marc 5 et Luc 8. Il y a eu le fils de la veuve de Naïm, dans Luc 7. Thomas lui-même était juif, donc il connaissait l'Ancien Testament, qui mentionne au moins trois résurrections. Et plus tard, au chapitre 14 de Jean, lors de la dernière scène qu'ils ont tenue ensemble, Jésus parle longuement de ses souffrances, de son départ. Il parle de l'envoi du Saint-Esprit. Il leur lave les pieds et institue la Sainte Cène. Et là encore, Thomas va faire une remarque qui montre une incompréhension totale. Au verset 5 de Jean 14, Thomas dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Et Jésus dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi le Père. Donc, Thomas avait vraiment besoin d'être évangélisé, carrément. Il avait besoin de comprendre la bonne nouvelle du salut. Et pourtant, Jésus avait clairement annoncé plusieurs fois sa résurrection. Nous lisons dans l'évangile de Marc que Christ mentionne sa résurrection trois fois. Marc 8, 9 et 10. Et il est dit, Jésus enseignait ses disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de l'homme, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et puis Marc ajoute, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger là-dessus. Donc le doute vient de notre ignorance, nos incompréhensions, mais aussi de notre refus de nous investir pour comprendre. Le quatrième problème de Thomas, c'est qu'il sous-estime Dieu. Il voit Dieu limité. Il ne voit que la limite que ses yeux lui imposent. Si je le vois dans ses mains, si je ne mets mon doigt, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et souvent, nous minimisons Dieu. Et nous le voyons plus petit qu'il est en réalité. Parce que nous nous fions qu'à ce que nous voyons. Pourtant, c'est bien connu que nous ne voyons pas tout. Notre vue est limitée. Elle est en dessous de la réalité. Il y a des longueurs d'onde que nous ne pouvons pas voir. Mais Thomas ne croit que ce qu'il voit. Pourtant, beaucoup de choses existent sans qu'on les voie. Mais notre vue nous trompe parfois sur ce que nous voyons. Quand vous regardez ces avions de ligne, parfois on les voit à peine. On voit la traînée et on sait qu'il y a là un avion. Mais si on voyait l'avion tout près, ce serait énorme. Ce serait énorme. Nous voyons le soleil se lever d'un côté et puis il se couche de l'autre côté tous les jours. Pourtant, le soleil ne bouge pas. Voyez-vous comment on est trompé? On est trompé par ce qu'on voit. C'est la Terre qui fait un tour de 24 heures devant le soleil. Et même la Terre fait un tour d'un an autour du soleil. Et il a fallu attendre 1530 pour que Copernic publie son livre Révolution pour savoir que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Quand même incroyable. Et alors le pape, c'était le pape Paul III à l'époque, il va interdire l'ouvrage. L'ouvrage sera interdit. Et l'ouvrage sera interdit par l'Église catholique jusqu'en 1822. Ah oui. Donc c'est toujours une erreur de sous-estimer la puissance et la grandeur de Dieu et de la limiter à notre vue. C'est une erreur. Et Jésus va vraiment émerveiller Thomas parce que Jésus est déjà dans un corps glorifié. Et il n'aura plus besoin d'une seconde mort comme pour les autres résurrections. Jésus traverse déjà les murs, il s'adresse directement à Thomas en révélant ses pensées. Thomas n'a pas besoin de lui parler, que Jésus lui dit déjà quel est son problème. Et alors Thomas, il s'exclame avec émerveillement, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Là, il a compris Il fait une belle profession de foi. Il ne doute pas. Il dit que Christ est Dieu. Parce que là encore, il y a beaucoup de gens qui doutent. Oral Roberts a dit que Dieu est aussi grand que vous voulez bien croire qu'il est, parce que il est encore au-delà de ce que vous croyez. Il est même plus grand que nous puissions imaginer. Il suffit de regarder l'univers. Et puis actuellement, avec les nouveaux satellites qui sont envoyés dans le vide et qui ont une meilleure vue sur l'univers, on découvre de nouvelles galaxies totalement inconnues. On voit que l'univers est encore plus grand que ce qu'on imaginait. C'est extraordinaire. Et Jésus ajoute cette belle phrase pour nous ici à Blény ce matin. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux sommes-nous. Oui. On peut dire aussi que le rationalisme de Thomas lui pose problème. Lorsque Jésus lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est-à-dire, pense différemment. Vois les choses différemment. Jésus remet là les pendules à l'heure. Et c'est souvent ce qu'il doit faire chez nous aussi, parce que notre façon de penser n'est pas toujours conforme aux pensées de Dieu. Thomas, lui, voulait simplement voir, toucher, sentir, mesurer, déterminer lui-même. C'était son propre esprit qui était la seule autorité dans le domaine de sa foi. Et la foi s'y oppose, parce que la foi fait confiance à celui qui a fait la promesse, mais le rationalisme ne fait confiance qu'en soi. Et c'est là toute la différence. Et ce n'est que dans la mesure qu'il veut vérifier lui-même ce qu'il voit, qu'il peut envisager la croyance. Et tout ce qu'il ne peut pas soumettre au contrôle de ses sens, il le rejette. Malheureusement, on ne peut pas réduire les choses de Dieu au niveau purement rationnel, car notre raison est limitée face à la grandeur de Dieu. Quelqu'un a dit, au lieu de douter de tout, il vaudrait mieux douter de nos doutes. Ben oui. Ça, c'est le doute cartésien, d'après René Descartes. Au lieu de douter de tout, il vaudrait mieux douter de nos doutes. Il dit qu'il ne faut pas avoir trop confiance dans nos sens, parce que, telles les illusions d'optique, ils nous trompent. On peut dire que Thomas est marqué aussi par la souffrance. Parce qu'il est dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte, la peur ambiante. Ils avaient peur des Juifs. Thomas et les autres disciples vivaient là dans une peur, la peur de la persécution. Et comme ces autres disciples d'Emmaüs qui étaient vraiment troublés par les événements. Et souvent là, le doute s'installe dans nos vies quand on est dans l'incertitude. Quand on est dans la maladie, on prie et on prie, mais rien ne se passe. Et finalement, on se dit, à quoi bon ? À quoi bon prier ? Parfois, nous n'acceptons pas les événements défavorables dans notre vie. Et nous posons toujours cette question, pourquoi ? Pourquoi ? Et même lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons très bien lire la Bible uniquement en posant des pourquoi. Et c'est une mauvaise façon de lire la Bible, parce que nous sommes invités à lire la Bible pour développer la foi. Mais si nous lisons la Bible ainsi, pourquoi Lazare a été ressuscité et Jean-Baptiste ne l'a pas été. Pourquoi ? Pourquoi Pierre et Paul ont été libérés de la prison alors que Étienne a dû subir le martyre ? Pourquoi ? D'une façon générale, nous ne connaissons pas le jour ni l'heure. Et nous ne savons pas ce que demain sera et ce qui nous arrivera. Et nous avons difficile à nous soumettre à la souveraineté de Dieu, quoi qu'il arrive. Et quand Jean-Baptiste était prisonnier d'Hérode, certainement qu'il ne voyait pas d'issue favorable à cet emprisonnement. Et il aura un moment de doute. Et dira au sujet de Christ, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne va pas le condamner, tout comme Jésus n'a pas condamné Thomas non plus. Quelqu'un a mentionné ça dans sa prière ce matin, que Dieu n'est pas là pour nous condamner. C'est extraordinaire, la patience de Dieu. Et Jésus dira de Jean-Baptiste, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert ? Ce n'est pas un roseau agité par le vent, mais c'est le plus grand des prophètes. Jésus avait une parole merveilleuse pour Jean-Baptiste. Et il comprend la condition humaine. Lui-même a vécu à Gethsémané et plus tard sur la croix. Le pire dans la condition humaine. Et il comprend notre trouble lorsque nous sommes persécutés. Il comprend notre difficulté lorsque nos prières ne sont pas exaucées. Nous sommes dans le creux de la vague. Il sait, il nous voit. Il sait ce que c'est lui-même. Il peut transformer à ce moment le doute en foi. Il y a dans Jude 1, le verset 22, une très belle phrase qui dit « Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. » Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Ça peut arriver. Et le Seigneur veut nous en délivrer. Alors je termine, parce qu'il me fallait 7 points. Alors, j'ai cherché longtemps. Non. Mais quand on voit les plus anciennes images de Thomas, vous le verrez toujours avec une équerre à la main. Parce que historiquement, il avait fait des études Les études d'architecte. Et on dit que dans son évangélisation, il a souvent dû faire le travail d'architecte pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alors on le voit avec une équerre à la main. Et c'était des études très poussées. Et beaucoup de gens perdent la foi quand ils font des études poussées. Juste un mot là-dessus, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des études, évidemment. Mais lorsque nous faisons des études, il faut être ancré dans le Seigneur pour ne pas se laisser déstabiliser. Et c'est très important, parce que les études scientifiques et philosophiques à l'heure actuelle, encourage l'athéisme. Regardez vous-même les émissions scientifiques qu'on montre à la télévision. Souvent, c'est l'athéisme qui est encouragé. Alors, il faut être vraiment solidement ancré en Christ et dans sa parole pour ne pas être ébranlé par les études. Quand on fait des hautes études de sciences, par exemple, notre foi est souvent mise à mal. L'évolution est évidemment préférée à la création. Alors que l'évolution, jusqu'aujourd'hui, est une hypothèse, scientifiquement parlant, au sens scientifique strict, tout comme la création. Mais alors, des récits comme Adam et Ève, tout le monde sourit, tout le monde rit. Combien de fois on m'a dit, ben, tu ne crois quand même pas à Adam et Ève? Alors, le déluge. La conception de Jésus par l'Esprit de Dieu. Actuellement, je discute beaucoup avec des musulmans. Et ils ne parviennent pas à comprendre. C'est difficile pour eux. Parce que si Dieu a eu un fils, c'est qu'il a eu un rapport avec une femme. Dans leur logique à eux. Ils ne peuvent pas croire qu'il y a un fils spirituel ou un fils adoptif. Non. Et faire comprendre ça, c'est difficile, parce que c'est une idée qui est vraiment ancrée en eux. Alors, combien de choses dans la Bible sont regardées comme des fables à l'heure actuelle, parce qu'on pense être plus intelligent, évidemment, que la parole de Dieu. Pourtant, bien souvent la Bible et la science ne s'opposent pas obligatoirement. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez étudier la Bible, il faut encore bien choisir sa faculté. Parce qu'il existe des facultés de théologie où tout est ramené au niveau purement rationnel. On cherche une explication à tout phénomène miraculeux. Même la résurrection de Christ est présentée comme un mythe. Alors, pour entamer pareille étude, il faut vraiment être fondé sur les Écritures pour ne pas se laisser ébranler dans la foi. C'est très difficile. Parce que la foi nous dit, je crois dur comme fer. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Et j'y suis attaché à la parole de Dieu. Tandis que le doute dit, oui, mais, faut voir, faut nuancer. Et on peut dire que toute l'humanité est entraînée dans ce péché par une parole de doute au départ, dans Genèse 3. Dieu a-t-il réellement dit? Alors voilà, Thomas a vécu 8 jours dans le doute. Et j'imagine qu'il n'a pas été heureux et qu'il avait eu le sentiment d'avoir raté quelque chose d'important. Mais Jésus a eu pitié de lui, il ne l'a pas laissé ainsi, il s'est révélé à lui comme il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Et c'est vrai que ce qui nous guérit de nos doutes, c'est une vraie communion, c'est une vraie rencontre, c'est une vraie relation avec le ressuscité. Et suite au contact avec le ressuscité, Thomas s'exclame, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Quelle belle déclaration de foi! Pour un juif, déclarer que Christ est Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors à nous d'avoir aussi une vraie communion avec le ressuscité. Il est Seigneur, à nous de nous soumettre à lui et de cesser de nous fier à nos propres sens, à notre propre intelligence. Nous ne sommes pas l'autorité suprême qui décide ce qui est bien ou mal, ce qui doit être cru ou pas. Et alors nos doutes vont se dissiper. Dieu va les remplacer par des certitudes. Comme il est dit dans Hébreux, que vous ne vous relâchiez point. et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En tout cas, Thomas ne sera plus absent. Il aura appris cette leçon. Au chapitre suivant, il sera mentionné avec les disciples et Jésus va se montrer pour une troisième fois. Ça se trouve dans Jean au chapitre 21, le verset 2. Et il est dit Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient ensemble. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et Thomas sera encore mentionné dans Acte 1, dans la chambre haute, en attendant la Pentecôte. Il est dit au verset 13, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, etc. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Après, on ne parlera plus de Thomas dans la Bible. D'après d'autres sources historiques, Thomas sera envoyé par l'église d'Antioche avec Barthélemy vers l'Orient. Et ils auraient d'abord évangélisé Ninive. Puis Thomas a pris la route de la soie vers l'Orient et a évangélisé tous les villages et les villes qu'il a rencontrées jusqu'en Inde. C'est en l'année 72 qu'il a été assassiné sur ce qu'on appelle aujourd'hui la montagne de Thomas, parce qu'il avait l'habitude de monter au-dessus d'une colline pour faire ses prières. Et il a été tué par un opposant qui l'a tué à la lance pendant qu'il priait. Son tombeau est près de là dans la vallée, à Chennai, en Inde du Sud, où on a construit à travers les âges plusieurs églises. Actuellement, il y a une magnifique cathédrale catholique qui est construite là et qui est visitée par beaucoup de pèlerins. Mais certaines indications montrent qu'il aurait aussi consacré quelques années à la Chine. Et cela est très étonnant parce qu'on a trouvé en Chine quelques bas-reliefs de cette époque où Thomas est dessiné en train d'évangéliser les gens. Il y a aussi quelques livres apocryphes à son nom. Il y a l'Évangile de Thomas et les Actes de Thomas, mais les experts disent qu'ils sont rédigés tardivement, au 3e et au 4e siècle, parce que le vocabulaire employé ne correspond pas au 1er siècle. Donc, il y a un doute sur ces livres. En tout cas, Thomas est pour nous un exemple, et il y a là un véritable appel de la part de Dieu pour chacun d'entre nous, auquel nous devons répondre. Et il nous est possible de sortir du doute. Il suffit que nous le décidions et que nous répondions à l'appel du Seigneur à ce sujet. Comme le dit un vieux chant qui dit « Oui, je puis croire ». Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce chant. « Je puis croire ». Oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. La foi qui libère. Voilà. Prions. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, combien ta parole est précieuse, combien elle est merveilleuse et bonne pour notre méditation. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble à la consulter. Nous voulons, Seigneur, reconnaître et confesser nos doutes. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu nous augmentes la foi, comme les disciples l'ont demandé, augmente-nous la foi. Combien souvent, Seigneur, nous relativisons tes promesses. Souvent, Seigneur, nous doutons de ta puissance. Nous doutons de ta grandeur, de ta présence. Souvent, Seigneur, nos souffrances nous enlèvent nos certitudes. Seigneur, il y a aussi Satan qui nous influence mal. Il y a ce monde qui sème le doute dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous savons que notre sort te préoccupe. Nous savons que ton esprit nous est donné et il veut nous réconforter. Nous savons que tes promesses, oui, se renouvellent. Ô Seigneur, rends-nous inébranlables, remplis-nous d'assurance. Oui, tes promesses sont vraies, elles sont oui et amen. Seigneur, remplace tous nos doutes par des certitudes. Fais de nous des géants de la foi. Que ton esprit répande ces certitudes. Que tes certitudes soient répandues sur ton peuple. Donne-nous, Seigneur, de vaincre nos incrédulités. Oui, Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de douter de nos doutes. À toi la gloire. Nous t'avons prié, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen.